Bonjour Marc Lucian.
Oui, bonjour.
Marc, depuis un peu plus de 2 ans, vous publiez sur les réseaux sociaux des vidéos que vous réalisez avec vos parents, Nono et Nona. Nono est votre papa, il est âgé de 96 ans. Nona est votre maman, elle est âgée de 89 ans. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Dans ces vidéos, on voit des scènes de la vie de tous les jours, mais la vie avec la maladie d'Alzheimer. Alors si on regarde dans un dictionnaire la définition de cette maladie, on nous dit simplement que c'est une maladie neurodégénérative qui touche 1 400 000 personnes en France. Pour vous, Marc, la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une maladie tout d'abord terrible pour les familles qui sont touchées par cette pathologie. En fait, maman ne me reconnaît plus. Elle a parfois des souvenirs lointains qui rejaillissent, mais le souvenir à l'instant T s'estompe immédiatement. Je vous donne un exemple. Si maman a mangé, je lui retire son plat. Moins de 30 secondes après, elle va me dire « J'ai faim, il faut que je mange
Ça, c'est le
». Donc,
premier
c'est une maladie.
symptôme, c'est la première, voilà, le premier symptôme des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est ne plus se souvenir, ne perdre cette mémoire immédiate.
Perdre cette mémoire immédiate et avoir une mémoire lointaine assez confuse. Alors après, il y a plein d'autres symptômes qui caractérisent cette maladie, comme le fait eh bien, de toujours avoir faim, d'avoir envie de dormir constamment. Mais le plus pénible pour les aidants que nous sommes, c'est le fait de ne pas reconnaître la personne et de ne pas se souvenir de l'instant présent.
Votre maman, elle a commencé à être malade quand? Depuis combien de temps? Enfin, quand est-ce que vous avez reconnu les symptômes et que vous vous êtes dit, ben là, voilà, on est dans le cas de figure d'une maladie d'Alzheimer?
On a commencé à reconnaître les symptômes le jour où on posait des questions très simples en allant chez mes parents à maman en lui disant qu'est-ce que tu as mangé à midi, qu'est-ce que vous avez fait ce matin. Et systématiquement, elle se retournait en disant Édouard, qu'est-ce que j'ai mangé? Oui, c'était bon. Elle répondait toujours à côté de la question précise. Et donc, on a laissé passer quelque temps. Et puis, à un moment donné, on a voulu confirmer cette maladie. Et nous sommes partis voir un neurologue qui lui a fait faire un test et qui a bien diagnostiqué Alzheimer.
Alors, ce qu'il faut dire pour les auditeurs, c'est que vous aviez déjà eu une expérience, si je puis dire, puisque quelque temps avant, vous vous étiez occupé de votre belle-mère qui, elle aussi, avait la maladie d'Alzheimer.
Exactement. On a gardé au décès de mon beau-père ma belle-mère pendant un peu plus de 13 ans à la maison. La maladie d'Alzheimer s'est déclarée. J'ai commencé à comprendre et à analyser cette maladie au quotidien parce qu'on s'en est occupé avec mon épouse avant que ma belle-mère ne termine ses jours dans son pays en Tunisie.
Alors, votre maman, vous la voyez, on imagine toujours comme votre maman, pourtant quelquefois elle ne vous reconnaît pas comme étant son fils. Alors, ça, on imagine quand même que c'est assez brutal à se prendre dans la figure, si vous me permettez cette expression. Et pourtant, sur les vidéos, quand même, Marc, on vous voit tout le temps souriant, on vous entend rire beaucoup. Comment vous avez fait et comment vous faites pour dire, ok, j'accepte, en fait, c'est toujours maman, mais c'est maman avec Alzheimer. Comment on fait? Quelles sont les armes pour se dire, ben, j'accepte et puis je reste là et puis j'avance avec elle?
Alors, avant de répondre à votre question, je vais d'abord vous faire un préambule. Ma nature et celle de ma maman, c'est d'être joyeux. J'ai été élevé dans un foyer où le sourire était toujours présent, et donc je prends les choses avec bonne humeur. Parce que quand je me lève le matin, je suis un homme heureux. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est très difficile pour un aidant de voir sa mère, de voir l'état de sa maman se dégrader, de voir sa maman ne plus vous reconnaître. De avoir des gestes brusques avec vous. Et le seul moyen d'y remédier, c'est de faire ce que j'appelle le deuil blanc. Le deuil blanc. Le deuil blanc, c'est en fait une prise de conscience personnelle qui dit la chose suivante. À partir de maintenant, la personne qui est en face de moi n'est plus la personne que j'ai connue, que j'ai aimée. Je dois en faire mon deuil. Donc le seul moyen de l'aider, c'est de ne pas faire fi de tout ce qu'elle peut me dire, de tout ce qu'elle peut faire. Et c'est une démarche personnelle que ne réussissent pas à faire tous les aidants. Et justement, dans les messages que j'essaye de transmettre sur les différents réseaux sociaux, c'est celui-ci aux aidants. Faites votre deuil blanc, c'est le seul moyen que vous ayez de pouvoir aider convenablement la personne que vous aimez.
Ça veut dire que pour vous, il y a toujours ce souvenir de cette maman, donc joyeuse et puis qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, vous la voyez toujours comme votre maman, mais que vous acceptez que parfois, effectivement, on le voit dans certaines vidéos, elle puisse avoir des paroles qui sont assez, parfois même agressives.
Oui, et encore, vous savez, les vidéos, je n'ai pas toujours mon téléphone sur moi pour filmer.
Oui, on voit pas
Donc,
tout, oui.
les vidéos, c'est un instant T, mais il y a des moments beaucoup plus compliqués. Le plus compliqué de tous étant celui où tous les matins, quand je vais la réveiller, que je la serre dans mes bras, elle me dit, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Donc, ça, c'est pas simple à vivre, mais personnellement, je réussis à le vivre parce que j'ai fait ce deuil blanc.
Ça veut dire que vous ne craquez jamais.
Jusqu'à présent, je n'ai jamais craqué. Je ne vous dis pas que demain, ce ne sera pas le cas, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais craqué.
Alors, il y a plusieurs points encore que je voudrais aborder avec vous, Marc. Je voudrais qu'on parle de la pudeur, du rapport au corps. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer change dans les personnes qui en souffrent et chez votre maman, qu'est-ce que ça change dans leur rapport à leur corps et à la pudeur? Parce que en fait, vous êtes obligé d'intervenir pour les gestes du quotidien, y compris celui d'aller au WC, de faire sa toilette. C'est vous qui prenez ça en charge, Marc. Alors comment elle réagit à ça?
Alors, je prends en charge, ou mon épouse le prend en charge
Oui.
tous les matins et tous les soirs, mais à 90%, c'est moi. Au début, c'était un petit peu compliqué, pas pour moi, parce que j'avais fait ces gestes-là avec ma belle-mère, donc ça ne me gênait absolument pas, mais pour maman, ça le reste encore aujourd'hui. Chaque matin, quand je dois, il faut parfois rentrer dans les détails pour expliquer, chaque matin, quand j'amène maman aux toilettes et que je lui ôte sa protection, eh bien, chaque matin, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Mais dès que j'ai ôté la protection, dès qu'elle est sur les toilettes, dès qu'on va faire sa toilette intime, aujourd'hui, ça se passe bien. Au début, c'était un tout petit peu plus dur pour elle. Mais comme la maladie, prend le dessus, eh bien, maman, comme elle ne sait pas que je suis son fils, ou très peu souvent, elle me voit peut-être comme un infirmier ou un aidant. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de problème. C'est juste le regard des autres qui est important. Sur les réseaux sociaux, j'ai eu affaire à bon nombre de personnes qui ne comprenaient pas qu'un garçon puisse changer, puisse laver sa maman. Et puis j'ai une multitude de personnes qui me disent, mais vous êtes dangereux.
Vous ne vous êtes pas posé la question, y compris pour votre belle-mère quelques années auparavant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas
Non,
laisser une
jamais.
personne dans un état de, eh bien,
Ben,
de sale.
j'explique souvent en messagerie privée, parce que j'en reçois beaucoup de messages privés, que la première fois que j'ai dû dénuder ma belle-mère, je l'ai retrouvée sur les toilettes avec des excréments un peu partout. Et vous ne pouvez pas laisser une personne. Je n'allais pas attendre que mon épouse rentre à la maison. Donc j'ai pris sur moi de prendre ma belle-mère, de la mettre sous la douche, de poser un drap devant elle pour la dénuder. Et à partir de l'instant où l'eau commençait à couler sur son corps, eh bien, j'ai vu le sourire sur cette personne qui voyait bien que j'étais là pour m'occuper d'elle.
S'agissant de la violence, parfois dans les vidéos, on voit votre maman faire des gestes brusques. Alors ça s'exprime aussi par des mots parfois, hein, qui sont assez virulents, assez violents, parfois agressifs. Et on vous entend quelquefois dire non, pas de violence, pas de violence. Ça, c'est aussi une dérive liée à la maladie d'Alzheimer, ces gestes de violence, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui explose.
Très souvent, la maladie d'Alzheimer, chronologiquement, à un moment donné de la maladie, il y a des actes de violence qui sont forts. Et c'est lié à cette maladie. Et justement, j'essaye, au travers des vidéos, d'expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de cette violence. Il faut juste expliquer à la personne, donc à la personne atteinte de cette pathologie, qu'il ne faut pas être violent. Et encore une fois, dans les messages que je reçois, beaucoup de personnes sont désemparées, parce qu'elles ne savent pas réagir face à cette violence. Moi, je réagis systématiquement en essayant d'avoir un ton calme et en disant, maman, pas de violence, maman, pas de violence. Et tout de suite, eh bien, sa violence tombe parce que je l'affronte.
Marc Lucian, cette question des aidants, alors qui est un peu en filigrane, hein, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, elle est vraiment finalement prioritaire dans cette. Enfin, quand on vous entend, on se dit que pour prendre en charge la maladie d'Alzheimer, eh bien, il faut vraiment prendre en charge l'accompagnement des aidants. Vous, vous tenez bon, vous êtes malheureusement très expérimenté dans l'accompagnement de ces personnes qui souffrent d'Alzheimer. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous êtes aussi aidé, vous n'êtes pas seul. On entend bien qu'il y a votre épouse aussi qui porte avec vous tout cela. Mais parmi tous les aidants, il y a des personnes qui sont désemparées, vous le dites, il y a des personnes qui sont seules, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs parents. Comment on fait? Comment on peut faire pour, eh bien, accompagner ces aidants pour qu'eux-mêmes puissent être vraiment de bons accompagnateurs?
Alors, votre question est rigolote parce que hier, j'ai fait une vidéo où je posais justement cette question en disant aux followers, répondez-moi, que feriez-vous? Est-ce que vous garderiez votre maman à la maison? Est-ce que vous la mettriez en EHPAD? Il n'y aura aucun jugement sur les différents sites. Et j'ai eu une multitude de réponses où des gens m'ont donné leur avis. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui sont désemparées parce qu'elles aimeraient garder leurs parents, mais elles travaillent, elles habitent loin. Donc il n'y a pas de jugement de valeur. Si on est aidant et qu'on peut le faire, je pense sincèrement que c'est mieux dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Si on ne peut pas, eh bien, il faut confier sa maman à un EHPAD ou à un organisme, voire se faire aider par des aides-soignants à domicile. Mais c'est un sujet qui est un sujet non seulement très difficile, très tabou, et qui peut détruire les familles. Parce qu'au sein de certaines familles, certaines personnes peuvent vouloir mettre une personne en EHPAD et l'autre non. Et donc les témoignages que j'ai eus hier sur la vidéo que j'ai faite sont absolument bouleversants parce que des gens ont accepté de se livrer à cœur ouvert pour donner leur vision des choses.
Il y a une forme de culpabilité aussi chez les personnes qui ne, bah, qui sont aidants et qui voient qu'elles ne peuvent pas continuer, qu'elles n'ont pas la force. Il y a une culpabilité aussi, un sentiment d'abandonner son parent.
Elle est énorme. Elle est énorme et je le vois d'autant plus dans les messages privés que je reçois, où des gens appellent à l'aide en me disant tu es fort, tu réussis, moi je ne réussis pas. Et j'essaie de déculpabiliser les gens. Parce qu'encore une fois, si la personne n'est pas capable de faire son deuil blanc, si elle n'est pas capable tout simplement d'être aidante, parce que tout le monde ne peut pas l'être, c'est comme ça, c'est la nature, eh bien il ne faut pas culpabiliser. Le tout, c'est de trouver la meilleure solution pour accompagner la personne atteinte d'Alzheimer sur ses derniers jours de la manière la plus digne possible.
Un mot sur votre papa quand même, Marc. Votre papa, Nono, 96 ans, qui a travaillé dur dans sa vie. Ça aussi, on le comprend au fil des vidéos. Il était mineur de fonds, je crois. Comment il vit les choses aujourd'hui, puisque lui n'a pas la maladie d'Alzheimer, donc il a certainement conscience de la maladie dont souffre votre maman. Il voit ce que vous faites, vous et votre épouse, pour votre maman. Comment il vit les choses? Comment il les observe et comment il les vit?
Alors, premièrement, il est très triste. Il est très triste parce qu'il a vu l'évolution de la maladie avec ma belle-mère. Il la voyait très souvent. Donc, il sait quelle est la route que va suivre maman dans sa maladie. Donc, déjà, il est triste. Deuxièmement, il est triste parce que lui a zéro pathologie, malgré le fait d'avoir été mineur de fonds pendant 39 ans, 37 ans ou 39 ans. Il n'a aucune pathologie. Et donc, il voit maman se dégrader petit à petit, et je vois dans ses yeux une profonde tristesse. Donc, c'est quelque chose de difficile à vivre aussi, parce que je dois tenter d'aider mon père de la meilleure des manières possibles, sachant qu'à 96 ans, ayant une motricité un petit peu plus réduite, il n'a qu'une seule envie, je le vois dans ses yeux, je le vois dans son expression, c'est de partir. Et en même temps, lui, il voit qu'il n'a pas de maladie. Donc c'est dur à vivre pour lui.
Oui, il se sent impuissant.
Elles sont complètement impuissantes, complètement impuissantes.
Enfin, pour accompagner vos parents, vous avez mis en place tout un processus quotidiennement avec beaucoup de temps de présence auprès d'eux. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les coulisses? À quoi ressemblent vos journées, Marc? Je crois savoir que vous habitez assez proche géographiquement de chez vos parents et que ben, vous avez des alertes chez vous pour voir si tout va bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les coulisses de votre quotidien?
Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer comment on a organisé l'appartement de mes parents. On a ôté quasiment tous les meubles. On a fait chambres séparées parce que quelqu'un qui a fait la maladie d'Alzheimer bouge souvent la nuit par le fort et autres. J'ai sécurisé l'appartement en mettant soit dans les toilettes, soit dans la douche des garde-corps pour pouvoir se lever. Et surtout, on a mis en place un système de caméras. Il y a une caméra dans la chambre de papa, une caméra dans la chambre de maman et une caméra dans la chambre, dans le salon. Et j'ai ensuite deux caméras à détection de mouvement, une dans le couloir qui donne vue sur la chambre et vue sur les toilettes et une dans le salon. Ce qui fait que chaque fois que mes parents bougent, j'ai une alerte, je ne vais pas faire de pub, mais soit sur mon Apple Watch, soit sur mon iPhone. Et donc, je check l'alerte en 2 secondes, je vois que tout se passe bien. Et puis je vaque à mes occupations. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec mes parents en termes d'occupation? Eh bien, tous les matins, je vais chez mes parents pour procéder à la toilette de ma maman. Je donne le petit déjeuner à papa, à maman. Je discute un peu avec eux. Puis, je laisse tout seul. À midi, ça prend 1 heure, 1 heure et demie. À midi, une aide-soignante spécialisée dans la maladie d'Alzheimer vient, passe 1 heure avec eux, leur donne à manger, parfois douche papa ou parfois douche maman, et moi je retourne tous les après-midi vers 16 h pour rester 2 heures, 2 heures et demie avec mes parents. Je joue aux cartes avec papa, je montre à maman les vidéos, on essaye de rire et
Elle
je refais ce
chante.
qu'il faut. Elle chante très souvent. Et puis voilà mon quotidien. Un quotidien somme toute simple. J'ai la chance d'habiter à moins d'une minute en voiture de chez mes parents. Et quand je m'absente ou quand je vais jouer au golf parce que c'est ma passion et ça me permet de m'évacuer, d'évacuer dans ma tête un certain nombre de tracas, eh bien, mon épouse est présente et peut se déplacer sans aucun problème.
Quand vous dites un certain nombre de tracas, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Oui, votre papa est très âgé, votre maman souffre de cette maladie d'Alzheimer, mais quand on voit les vidéos, on se dit, eh bien, voilà, ils sont bien accompagnés, tout va bien. Qu'est-ce qui vous inquiète?
La première chose, c'est d'arriver un matin et de voir papa mort dans son lit, parce que je pense que c'est ce qui arrivera un jour, et c'est comme ça que les choses se passeront. Deuxièmement, c'est de voir la dégradation de la maladie, parce que je sais où cette maladie va amener maman, et je sais les soucis de motricité et autres qu'elle va devoir gérer et qu'on gérera au quotidien avec mon épouse. Ça, c'est mon
Vous
premier
voulez dire que
tracas.
vous avez peur de ne plus pouvoir gérer à un moment? C'est ça que vous voulez dire?
Non, je sais que je serai capable de gérer, mais je sais la charge de travail que cela comportera à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire une présence H24, soit de mon épouse, soit de moi.
Alors, du coup, ça nous fait revenir à une question liée à celle des aidants, hein, mais je l'ai dit, c'est vraiment le sujet des aidants est vraiment en filigrane de tout ce qu'on dit là. Ça veut dire une présence H24, ça veut dire quand même que pour être pleinement aidant, il faut être disponible, il faut pouvoir être disponible. Vous ne travaillez plus, vous n'êtes plus en activité, mais cela, votre engagement auprès de vos parents n'aurait pas été possible si vous travailliez encore.
Si, parce que en fait, oui, tout dépend du travail. Quand je m'occupais de ma belle-mère, j'avais un travail de dirigeant d'entreprise, et donc mon épouse avait un travail en libéral, et donc on arrivait à s'organiser pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un à la maison avec ma belle-mère. Donc ce n'était pas un souci. Mais effectivement, dès l'instant où vous travaillez et que la maladie a pris un pas où la personne ne peut plus vraiment bouger toute seule, que maman est capable de se lever aujourd'hui, d'aller aux toilettes, d'abaisser sa protection, de faire ses besoins, de se rhabiller et de repartir dans le salon. Elle est capable de le faire sans aucun problème. Dans quelque temps, elle ne sera plus capable de le faire. C'est la maladie qui prendra le dessus. Et à partir de cet instant-là, si vous n'avez pas une présence à la maison, vous ne pouvez pas vous occuper et garder une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est pas possible.
Aujourd'hui, vous vous dites que vous en
Mais
serez
nous, ce n'est
capable.
pas notre. Nous, ce n'est pas notre cas parce que et en plus, c'est notre volonté. Donc, On arrivera à s'organiser avec mon épouse.
C'est pour ça que vous faites les vidéos, Marc? Parce que, au fond, je l'ai dit en introduction, 1 400 000 personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, ça veut dire au moins le double de personnes qui sont impactées parce qu'elles sont proches de ces souffrants. Quel message vous voulez passer à ces personnes-là, en fait? Est-ce que c'est pour ça que vous faites les vidéos? Est-ce que c'est pour transmettre tout ce que vous m'avez dit là à l'instant? Quel message vous voulez faire passer, en fait?
Alors, tout d'abord, je vous reprends sur un chiffre, c'est bien 1 400 000, mais dans mon esprit, ça touche beaucoup plus de familles. Parce que si on prend une personne atteinte d'Alzheimer,
Oui,
elle a des frères, des sœurs, des enfants,
bien
des
sûr.
oncles et autres, ça représente dans ma tête, dans mon esprit, plus de 20% de la population qui a au moins une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc, le but que je veux avec ces vidéos, c'est non seulement de sensibiliser les gens sur le fait qu'il est possible de dialoguer, de s'occuper au quotidien d'une personne atteinte d'Alzheimer dans les limites de ses capacités. La deuxième chose, c'est de faire passer des messages à une jeune population. J'ai démarré sur TikTok. On critique souvent TikTok, mais j'ai très très peu de messages malveillants sur TikTok et j'ai un nombre impressionnant de messages privés de jeunes qui me disent comprendre la maladie, découvrir la maladie et faire en sorte plus tard d'avoir la même démarche avec leurs parents. Donc, s'il y a cette démarche de sensibilisation, eh bien, le compte Stick Your Spirit aura eu une réelle valeur ajoutée. C'est ça le but, c'est de parler de
Vous
la
vous
maladie
attendiez à
et
ce
de
que
sensibiliser
des
les gens.
jeunes soient intéressés par vos vidéos et vous suivent?
Non, non, pas du tout. Je pensais vraiment. Vous savez, vous avez des stats sur tous les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok et autres, où vous pouvez voir les tranches de personnes qui sont intéressées. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit 45 et plus. Eh bien, c'est faux. C'est pas du tout cette proportion-là qui regarde, qui like et qui commente. C'est vraiment une tranche 15-45 ans.
Ah oui, donc un public vraiment très jeune, quoi.
Exactement.
Qui se projette ou qui prend des conseils peut-être pour l'avenir, quoi.
J'ai le sentiment, et si c'est le cas, eh bien le message aura servi à quelque chose.
On peut vous suivre sur Instagram et TikTok sous le compte Skip Your Spirit avec des vidéos que vous publiez donc quasiment quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, hein.
Je poste entre 2 à 3 vidéos par jour. Généralement, ces réseaux fonctionnent de la manière suivante. Le matin, les gens partent au travail, regardent, donc c'est entre 7 h et 8 h. À midi, ils prennent leur pause, c'est entre midi et 13 h. Et le soir, ils rentrent, c'est entre 18 h et 19 h. Voilà.
Voilà, et j'ajoute pour terminer, Marc Lucian, que vous prenez vraiment du temps chaque soir pour répondre aux messages que vous recevez en messagerie privée grâce à ces
Un peu
réseaux
plus de 2 heures
sociaux.
par soir, c'est vrai.
Voilà, et ça c'est important aussi de le dire, c'est que vous avez à cœur vraiment de répondre à tous les messages. D'ailleurs, je crois, on peut terminer par ça, Marc Lucian, vous pouvez nous en dire un mot, que vous allez faire donner des conférences et vous déplacer dans certains lieux pour, eh bien, pour évoquer tout ça, cette maladie d'Alzheimer, le deuil blanc, le rôle des aidants.
Oui, j'ai la chance d'avoir du personnel médical qui m'envoie des messages de bienveillance, des responsables d'EHPAD et autres. Et j'ai au mois d'octobre une réunion prévue avec un EHPAD à Montpellier, ainsi qu'une conférence le soir organisée par la ville de Montpellier sur le thème du deuil blanc. Je dois partir également dans le nord de la France faire exactement la même chose. J'ai ensuite des écoles d'aidants qui me demandent d'intervenir pour parler de mon expérience auprès de leurs élèves, des radios comme la vôtre qui m'appellent, sont interpellés par la démarche et veulent qu'on en parle. Et tout ça cumulé fait qu'on parlera de plus en plus d'Alzheimer, de plus en plus du rôle des aidants, de plus en plus de la manière dont un aidant peut s'en sortir et ce sera gagné pour tout le monde.
Merci, merci beaucoup Marc Lucian
Je vous en prie.
pour vos réponses. Merci pour votre disponibilité, puis très bonne continuation donc auprès de vos parents, Nono et Nona. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.